Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux femmes en prison. Et s'il y a une non-parité dont il faut se réjouir, c'est forcément celle-là. Les femmes détenues partout dans le monde représentent une infime minorité de la population carcérale. Moins de 4% des prisonniers en France sont des femmes. Pourquoi ? Pourtant, en même temps, quoi de plus désexué qu'un être humain qui est déshabillé, qui est douché, qui est fouillé à corps, rhabillé et privé de tout effet personnel lorsqu'il arrive en prison et dont les journées sont réglées comme du papier à musique ? Finalement, peut-on, doit-on s'interroger sur les spécificités des femmes détenues ? Une magistrate a voulu comprendre en quoi elles sont différentes, comment elles sont traitées aussi par l'administration pénitentiaire et comment est appréhendée leur réinsertion dans la société. Bonjour Isabelle Rome.
Bonjour.
Vous êtes magistrate à la cour d'appel de Versailles et vous avez enquêté pendant près d'un an à la maison d'arrêt de la même ville pour publier Dans une prison de femmes. Alors évidemment, parler avec ces femmes sans avoir pour une fois à prendre de décision sur leur sort, c'était aussi pour vous une forme de liberté, non ?
Oui, c'est vrai, c'était beaucoup de liberté dans les échanges et j'ai pu vraiment apprécier ce ton.
Et pour les femmes, lorsqu'on leur a proposé de parler à une juge comme ça, librement, dans le cadre de leur affaire.
Le directeur donc avait demandé à celles qui le souhaitaient donc de remplir un imprimé dans lequel elles se portaient volontaires et elles ont été assez nombreuses à répondre positivement. Et il n'y a pas eu d'appréhension. Je ne savais pas trop comment cette démarche allait être accueillie, mais très vite elles m'ont fait beaucoup confiance et donc j'ai essayé de ne pas les trahir.
Les juges connaissent finalement assez mal la prison de l'intérieur.
Les juges connaissent peu la prison de l'intérieur, à part les juges de l'application des peines qui sont chargés du traitement donc des peines.
Ce que vous avez été.
Voilà, ce que j'ai été pendant 6 ans dans ces grandes prisons de Lyon, hein, donc à accorder ou refuser des permissions de sortie, des libérations anticipées et sous contrôle, comme des libérations conditionnelles, des semi-libertés. Mais à part les juges d'application des peines, les magistrats vont peu en prison et c'est aussi pour cela que, après bientôt 30 ans de pratique, j'ai voulu retourner derrière les barreaux.
Et vous avez découvert ce qui n'était pas une évidence pour une juge comme vous, que finalement, pour la majorité des détenus, les peines sont mal comprises.
Oui, et cela m'apportait beaucoup de percevoir comment justement ces peines étaient ressenties, tant du côté des détenus que de la part du personnel pénitentiaire d'ailleurs. Et souvent j'ai rencontré des femmes qui en général assument leurs responsabilités et ne contestent pas, sauf bien sûr celles qui se disent toujours innocentes, mais je n'en ai pas vraiment vu, qui ne contestent pas la longueur de la peine, mais qui trouvent qu'elles n'ont pas été assez entendues, notamment sur le mobile de leurs actes.
Qu'elles ont écopé d'une trop lourde peine.
Et souvent quand même qu'elles ont écopé d'une trop lourde peine.
Alors nous serons également en ligne avec notre correspondant Karim Lebourg à New York, aux États-Unis, où plusieurs États autorisent par exemple l'accouchement de prisonnières menottées, et où ce sont des hommes la plupart du temps qui surveillent les femmes détenues, contrairement à la France. Et on entendra aussi le témoignage en direct de l'ancienne directrice de la prison pour femmes de Bolé, à Bamako, au Mali, Assetou Ouya Koité, a été d'ailleurs la première directrice de prison dans son pays. Et puis quant à vous, les voisins et les voisines, vous pouvez questionner nos invités, participer aux discussions si vous vous sentez concerné par le sujet des femmes en prison. 33 1 84 22 71 71. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage de cette femme ex-détenue. Nathalie a été condamnée à 10 ans de réclusion. Elle en a fait 6. Elle a 29 ans, en fait, lorsqu'elle est écrouée en 2006 dans le Nord Pas-de-Calais. Aujourd'hui, Nathalie a purgé sa peine et depuis 2 ans, elle met tout en œuvre pour reprendre une vie normale. Elle a accepté de convoquer ses souvenirs d'ex-détenue au micro d'Alice Milot.
On a l'impression qu'on devient complètement cinglé au début. On rumine, on se demande ce qui va se passer, comment ça va être. Arrive un moment, vous sentez comme un morceau de viande en fait, parce que quand on sort de la cellule, on est palpé. Vous êtes un numéro d'écrou, vous revenez, vous êtes fouillé. On se sent comme un lion en cage en fait. Parce que d'un, on est enfermé dans notre cellule. L'avantage, c'est qu'on a les douches. dans la cellule, ça c'est une bonne chose. Je suis restée là-bas pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai pu travailler en buanderie. Ensuite, j'ai été transférée directement à Bapaume. C'est une prison, mais c'est un centre de détention. Ça se fait que là-bas, déjà, vous avez le droit à la clé de votre cellule. Au soir, on est enfermé, c'est sûr. Mais le matin, à 7h30, c'est l'ouverture de porte. À ce moment-là, vous avez votre clé avec vous du matin au soir. Donc, vous rentrez dans votre cellule, vous sortez quand vous voulez. Si on a envie d'aller en salle de sport ou quoi que ce soit, ou aller en promenade, on y va. Si on veut aller téléphoner à la cabine d'en bas, on peut y aller. Il y avait même un coin avec des fours et des plaques électriques. On pouvait cuisiner ou quoi que ce soit. Au début, on a complètement perdu. Qu'on vient juste d'arriver en prison, qu'il y en a qui jouent les caïds en disant « Ouais, demain, tu me donnes des clopes ou je te casse la gueule. » Au début, ça fait peur. Hein. Faut pas croire. Hein. J'ai dû apprendre, pour pouvoir me renforcer moralement et aussi physiquement, à apprendre aussi à, si on peut dire, entre parenthèses, à survivre. Parce qu'il faut savoir que c'est pas facile non plus. Et puis aussi à prendre du caractère et à pas se laisser faire. Si on se laisse faire, c'est foutu, quoi. Un truc qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, le travail. Et c'est aussi de faire du sport. C'est ce qui me faisait tenir. J'avais besoin de faire du sport pour évacuer la tension qu'il y avait à l'intérieur. Le premier truc que j'ai pu m'offrir quand j'ai eu ma première paix, c'est de m'offrir du maquillage.
En prison?
En prison. C'est pas parce que j'étais en prison que je faisais pas attention à moi. En fait, si on s'occupe pas de soi en prison, on meurt. Parce qu'il faut quand même que si un jour je sorte, j'ai une bonne apparence physique aussi. Donc j'ai pas envie de ressembler à une vieille en sortant de là, quoi. Il y a aussi le soutien de la famille aussi derrière. Les gens qui sont dehors, des fois, ils doivent se dire « Ouais, ma famille m'embête » ou quoi que ce soit. Mais en fait, pour nous, c'est quelque chose d'important. C'est une bouffée d'air aussi. Ça veut dire qu'on fait encore partie de la famille. La prison, c'est comme une maladie lourde. En fait, vous voyez qui est réellement votre famille et qui est réellement vos amis.
Et vous, vous avez eu des fidèles?
Ouais, j'ai eu des fidèles et j'en suis très contente. Ça m'a permis de tenir.
Alors bon, le parloir, c'est pas forcément derrière une vitre, hein, comme on voit dans les films. Hein. Vous avez des salles, c'est ça?
Petite salle avec des chaises et un petit muret qui nous sépare. Et pendant 2 heures, on a l'impression que c'est nous qu'on a mis notre famille en prison. Ouais, ouais, on se sent coupable.
De les avoir obligés à passer 2 heures en prison pour vous voir?
Ouais, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça nous permet aussi de se dire, je suis arrivée en prison, maintenant je vais en sortir, mais c'est terminé, je fais pas de conneries, je me tiens à carreau. Et on le fait pour notre famille parce qu'on se dit, ils nous ont soutenus, on veut pas les décevoir.
Vous n'avez vécu pendant 6 ans qu'avec des femmes alors?
Ouais. Ouais, les femmes c'est pire que les hommes. Hein. Les hommes, quand ils se disputent ou quoi que ce soit, c'est un coup de poing, ça y est, c'est rendu. Tandis que les femmes, ça peut traîner en long, en large et en travers, et ça peut traîner pendant, allez, 1 semaine, 2 semaines. Et le jour où l'autre, elle l'oublie, et ben, il y en a une, elle l'oublie pas, puis elle lui règle son compte. Hein.
C'est quoi les sujets de discorde en prison entre détenus?
Du tabac qui a pas été rendu, une fille qui a prêté un vêtement que l'autre l'a rendu, qui s'était taché, enfin des trucs comme ça, quoi. Il y a des moments, c'est pire que des gamins, quoi, en fait. C'est vrai qu'il y a eu des bagarres avec des filles, des trucs comme ça. Mais le mieux, c'est que quand il y a une bagarre, c'est ne pas s'en mêler.
Est-ce que vous vous sentiez potentiellement en insécurité là-bas?
On est en insécurité. Mais c'est pas seulement une insécurité physique, c'est aussi une insécurité morale. Vous voyez une fille qui se taille les veines ou quoi que ce soit, ça fait mal. Des trucs comme ça, ça nous ramène tout de suite à une fragilité importante. Mais on se pose à arriver un moment, la question, est-ce que moi je vais me suicider aussi? Une personne qui me dit qu'elle était en prison, qu'elle a jamais pensé à se suicider, cette personne, elle ment. On s'est tous posé la question. Ça, c'est sûr et certain.
Pourquoi vous parlez de ça?
Il y a une surveillante, je sais que sa phrase, elle m'est restée dans la tête pendant des années parce qu'elle disait, moi aujourd'hui, je suis avec vous, je suis surveillante, demain, je peux être à votre place. Donc si je témoigne aujourd'hui, c'est pour faire voir aux gens que ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver un jour derrière les barreaux. Faut que vous dire une chose, c'est que c'est la prison change beaucoup les gens. Bah déjà, je peux pas rester dans mon appartement, je ne peux pas rester dans une pièce si la porte elle est fermée. Je suis obligée d'avoir mes portes ouvertes. Quand j'entendais les clés, j'étais droite derrière la porte en croyant que c'était un surveillant qui allait ouvrir la porte. Bah ça nous a marqué, donc on vit encore avec. On est conditionné et il faut un moment pour que ça s'enlève.
Voilà, c'était le témoignage de Nathalie, condamnée à 10 ans de réclusion. Elle a fait 6 ans dans le Nord-Pas-de-Calais. À Isabelle Rome, que vous inspire ce témoignage?
Bien, beaucoup de choses. Et puis vraiment, il me renvoie à tous ces mois que j'ai passés donc dans cette maison d'arrêt des femmes de Versailles. Et c'est vrai que j'ai noté quelques mots pendant le témoignage de Nathalie. ce sentiment de n'être qu'un morceau de viande quand on arrive, hein, vous l'avez rappelé, après cette phase de dépersonnalisation où on nous enlève tout. Ce que j'ai bien noté aussi, c'est cette différence quand même de traitement entre les maisons d'arrêt, donc qui était l'établissement dans lequel j'ai fait ce travail, et puis le centre de détention, qui est un établissement au sein duquel la peine peut être purgée et qui offre un petit peu plus de possibilités en vue de la réinsertion et aussi de liberté à l'intérieur.
Parce que pour des longues
bâtiment.
Peines, on reste pas tout le temps en maison d'arrêt. Ensuite, on part en centrale.
Un centre de détention, dans une maison centrale, un établissement pour peine.
L'apparence physique, c'est omniprésent dans le témoignage des femmes, dans les femmes, pour les femmes avec lesquelles vous avez discuté. Vous dites souvent que vous-même, vous êtes étonnée de les voir au parloir avec les ongles ultra vernis. Et vous dites d'ailleurs dans votre livre que le corps se transforme en prison.
Oui, le corps se transforme. L'une d'entre elles, qui était d'ailleurs très coquette, me disait que malgré cette coquetterie, elle avait les cheveux qui partaient en touffe. Beaucoup aussi ont des problèmes de peau. D'autres ont des problèmes de poids. Enfin, soit grossissent beaucoup, soit au contraire maigrissent. Le corps se transforme. Alors, pour certaines d'entre elles, en tout cas pendant un certain temps. Il y a aussi un effet qui n'est pas forcément négatif, qui est pour les femmes qui sont dans des dépendances avant d'entrer en prison, c'est-à-dire pour des femmes qui étaient toxicomanes ou alcooliques. Il y a aussi une phase de reconstruction. Après, il ne faut pas que la peine soit trop longue, mais en tout cas, les premiers mois sont ceux d'une reconstruction physique.
Mais vous émettez l'hypothèse que les femmes, peut-être plus que les hommes, finalement se rongent de l'intérieur, et d'où aussi le fait qu'il y ait des eczémas sur la peau, des signes physiques.
Oui, et aussi des dérèglements, même sur le plan gynécologique, hein, je l'ai constaté, comme si finalement la féminité, enfin ce qui échappait, et je me suis demandé, alors c'est peut-être une interprétation un peu rapide, mais je me suis demandé si cette coquetterie n'était pas justement pour se sauver. D'ailleurs, Nathalie le dit, j'ai bien noté, elle a dit, si on ne s'occupe pas de soi, on meurt. C'est un peu sauver son corps, c'est un peu sauver ce qui nous reste, quoi.
Les femmes sont condamnées en général pour quel genre de délit par rapport aux hommes ?
Alors, les peines sont prononcées pour des motifs variables. Celles que j'ai rencontrées l'étaient pour des meurtres ou des affaires d'escroquerie, des vols, des conduites en état alcoolique avec récidive.
Délits ne sont pas franchement sexués ?
Pas vraiment. On ne peut pas dire que les délits soient vraiment sexués.
Plus de courtes peines pour les femmes ?
Pas sûr. Il n'y a pas de statistiques vraiment spécifiques. À part le fait de noter quelle est la proportion de femmes, donc 3,68 en France,
moins de 4%.
Pas vraiment de statistiques précises.
Alors les femmes et les hommes ont les mêmes droits, les mêmes règlements dans les lieux d'incarcération, et pourtant il règne dans une prison pour femmes une atmosphère tout à fait différente. On en parle dans quelques instants.
J'ai préféré partir m'isoler. Maman, comment te dis-je, suis désolée. La consigne à ma Clément négligée. Et moi, comment te dis-je, j'ai dit ok. Tous les jours, je pense à arrêter. Mais j'en veux faire du mal une entité. Je vais tout plaquer. Je ne suis qu'un homme, je veux finir par clamser. Je vais me barrer. Rejoins tous les miens, les dignes d'arrêt. Paris, c'est Alcatraz. Mardis, je m'en dis, tu sais, t'as pas brasse. Le cœur est noir, il pas comme un Sénégalais. Allez, entendre, donc croyez que saigner fallait. Moi, je veux mon homme, mon dîner, mes gosses. Pour ça, crois-moi, j'en pleurerai bien de nos faces. Et je te côtoie et le pavé. Pas à pas, je me dis, c'est pas vrai. Papa, maman, les gars, t'es je sens comme une ligne isolée. Et je te côtoie le pavé. Pas à pas, je me dis c'est pas vrai. T'as pas même à l'égard des soleils. Pardonne-moi, grand-mère, ouais, s'il te plaît. Je serais venue te voir si j'avais plus de blé. Mais tu sais, c'est non plus, c'est pas facile. En France, la soumette est bof aussi.
Désolée, Kelly Lee Evans chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons des femmes en prison avec vous, Isabelle Rome. Vous avez publié une enquête consacrée à des femmes, des témoignages recueillis à la maison d'arrêt de Versailles. Vous êtes magistrate. Je le disais, les femmes et les hommes ont les mêmes droits, les mêmes règlements, quelles que soient les maisons d'arrêt, même si après la situation, les maisons d'arrêt et les centrales, même si la situation diffère. Et pourtant, les surveillantes qui travaillent dans les prisons pour femmes disent que ça n'est pas du tout la même chose de travailler dans une prison pour femmes. Alors, pour quelle raison ?
Oui, elle l'affirme vraiment très souvent.
Parce que les surveillantes peuvent travailler aussi dans des prisons pour hommes.
Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas vrai, à l'inverse. C'est-à-dire que les surveillantes femmes peuvent travailler dans des maisons d'arrêt, enfin, ou des prisons pour hommes, mais les surveillants ne peuvent pas surveiller un quartier de femmes. Voilà. Oui, alors ce qu'elle constate, c'est qu'il y a moins de violence physique. Et notamment à Versailles, il faut quand même préciser que Versailles, c'est un petit peu particulier, puisque c'est une petite structure avec une soixantaine de détenus seulement, et que forcément, dans un tel contexte, eh bien, les relations entre détenus sont moins tendues que dans des grosses prisons surpeuplées, de même que les relations entre le personnel et les détenus sont également plus sereines. Mais moins de violence physique. À Versailles, par exemple, il n'y a pas eu en 2013 de condamnation quartier disciplinaire pour violence physique. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on vit dans un monde idéal de bisounours, voilà, où tout le monde s'adore. Non, il y a des rivalités, il y a des jalousies. Et alors, il y a autour de deux ou trois éléments que j'ai souvent constatés, c'est autour, par exemple, de celles qui reçoivent des mandats. Plus que d'autres.
C'est-à-dire de l'argent.
De l'argent de la famille, voilà, qui ne sont pas abandonnés par l'extérieur. Nathalie le notait aussi, hein, quelle place on a par rapport à sa famille à l'extérieur. Celles aussi qui reçoivent des visites, plus souvent, hein, que d'autres. Il y en a qui sont abandonnées. Enfin, ça revient un petit peu, finalement, sur ce même problème. Et puis aussi, j'ai constaté que certaines ne voulaient même plus se croiser. Donc il y a quand même de fortes tensions, mais qui sont plus psychologiques, alors qui peuvent aussi être des violences verbales. Hein, je pense qu'elles doivent s'insulter, notamment il y a des moments comme ça pendant la promenade qui durent longtemps, en plus, qui durent presque une heure et demie. Alors dans un tout petit espace, je crois, qui fait moins de 50 mètres carrés, où elles peuvent être 10, 15. Voilà, ça c'est un moment difficile. D'ailleurs, certaines fois, elles ne veulent plus sortir en promenade, c'est quand elles se sentent menacées. Ce qui ne veut pas forcément dire, comme je le dis, passage à l'acte, mais en tout cas une insécurité morale.
Vous citez le cas d'une détenue, par exemple, qui, lorsqu'elle sort, dénonce sa co-détenue pour fraude aux allocations familiales. Donc, évidemment, la fille qui est restée en cellule en prend pour encore plus lourd. Enfin, des règlements de compte.
Oui, ou alors une autre aussi qui arrachait les photos sur le mur de la cellule. Ça sont des choses qui font très mal quand on sait l'importance d'une photo quand on est en prison. Donc, ce sont des petits gestes comme ça, mais qui ne paraissent pas très graves, mais qui font très mal.
Mais pour l'administration pénitentiaire, évidemment, les femmes sont plus simples, entre guillemets, à gérer.
Voilà. Et d'ailleurs, l'une des surveillantes me disait que quand elle était arrivée en stage, donc, au centre pénitentiaire de Rennes, qui est le plus gros centre qui accueille des femmes en prison, on lui avait dit, les femmes, ça fait pas de bruit, c'est propre et ça crie pas. Voilà. Ça fait vraiment partie des clichés aussi, un petit peu véhiculés.
Un résumé un peu cynique. Vous avez voulu en savoir plus au-delà,
cynique,
heureusement.
Voilà.
Vous restez avec nous, Isabelle Rome, les femmes en prison. Pourquoi les femmes ne sont pas des détenues comme les autres ? On va parler de leur statut de mère. C'est quelque chose d'extrêmement important pour les détenues. Faudrait-il du coup une politique pénitentiaire spécifique pour ces femmes ? Les voisins et les voisines, vous pouvez nous appeler au 33-84-22-71-71. On parlera du cas des États-Unis tout à l'heure. Et puis on sera aussi en ligne avec une ex-directrice de prison pour femmes à Bamako. 7 milliards de voisins, retour dans 3 minutes. Restez avec nous sur RFI et on se reparle juste après le flash. Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines, car nous parlons des femmes en prison aujourd'hui. Elles représentent, si on prend le cas de la France, moins de 4% de la population carcérale. Isabelle Rome, vous avez enquêté, vous êtes magistrate et vous avez enquêté pendant un an à la maison d'arrêt de Versailles. Vous publiez Dans une prison de femmes, une juge en immersion. Et on le disait en première partie d'émission, évidemment, c'est une des rares inégalités hommes-femmes dont il faut plutôt se réjouir. Hein. Elles sont très, très minoritaires, ces femmes en prison, par rapport à la population des détenus, moins violentes aussi, moins hurlantes dans leurs cellules que les hommes. Les femmes se consument de l'intérieur et réclament à l'unanimité des nouvelles de leurs enfants, car elles sont très souvent mères et peu reconnues dans ce statut. On en parlera avec vous. Alors, comment est appréhendée la question des femmes détenues dans un pays maintenant comme les États-Unis? Évidemment, il n'y a pas que la France qui nous intéresse. Là aussi, elles sont minoritaires. Moins de 10% des détenus sont des femmes, mais avec des chiffres qui flambent, et on va en savoir plus dans quelques instants. Je vous rappelle notre numéro de téléphone si vous souhaitez participer à l'émission, nous parler des femmes détenues dans votre pays, 33 1 84 22 71 71. Et tout de suite, direction les États-Unis. Il y aurait plus de 200 000 femmes dans les prisons américaines. C'est un nombre qui ne cesse de croître. Nous sommes en ligne avec notre correspondant à New York. Bonjour Karim Lebourg.
Bonjour.
L'incarcération des femmes a été multipliée par 8 en 25 ans. Est-ce qu'on a des explications, Karim ?
Oui, c'est un taux d'incarcération qui augmente très rapidement, celui des femmes. En fait, il augmente une fois et demie plus vite que celui des hommes. L'explication, elle tient d'abord à la politique carcérale qui est très sévère aux États-Unis. On envoie de plus en plus de gens en prison, un prisonnier pour 200 habitants aux États-Unis, et on condamne davantage pour des délits qui peuvent être considérés comme mineurs, et les femmes sont davantage concernées par ces délits mineurs, ce qui explique qu'elles sont de plus en plus nombreuses en prison.
Et qui sont ces femmes dans les prisons américaines, Karim Lebourg ?
Alors, deux prisonnières sur trois aux États-Unis sont issues des minorités, donc noires et latinos. La durée d'incarcération moyenne est de 36 mois. La plupart des condamnés le sont pour des crimes non violents, donc drogue, prostitution. En fait, l'immense majorité des femmes qui sont en prison aux États-Unis ont été victimes de violences et d'abus dans leur vie. Pour celles qui ont commis des crimes de sang, eh bien, dans 90% des cas, la prisonnière a été violentée par l'homme qu'elle a tué. À noter qu'il y a peu de femmes dans les couloirs de la mort, donc les femmes sont moins condamnées à mort que les hommes aux États-Unis.
Et quelles sont les conditions de détention pour les femmes aux États-Unis, Karim ?
Alors, ces conditions sont régulièrement critiquées par les associations de droits de l'homme. Je vous donne quelques exemples. Les accouchements en prison sont assez fréquents. Cela se passe dans un hôpital en dehors de la prison. Et dans 30 des 50 États, les femmes sont menottées pendant l'accouchement. Les prisons pour femmes sont moins nombreuses que celles pour les hommes. Elles sont donc plus espacées, plus éloignées. Cela pose des problèmes pour les visites familiales. Les femmes en prison perdent souvent leurs enfants qui sont confiés à des centres d'accueil, puis à des centres d'adoption si leur peine est supérieure à 22 mois. Et puis le système de santé en prison est mal préparé. Les cancers du sein, les cancers du col de l'utérus sont souvent fatales en prison. Enfin, presque la moitié des gardiens dans les prisons pour femmes sont des hommes. Il y a des viols, il y a des abus. Il y a une prison qui est tristement célèbre pour cela, c'est la prison de Wetumpka dans l'Alabama. Une étude a montré que un tiers des gardiens dans cette prison ont eu des relations sexuelles avec des prisonnières en échange de cigarettes ou de produits divers et variés. C'est quelque chose qui est extrêmement répandu.
Oui, on peut parler effectivement dans ce cas-là de chantage sexuel. Alors, il y a une série télévisée, Karim Lebourg, qui a popularisé vraiment à l'extrême le problème des femmes en prison, qui s'appelle Orange is the New Black. S'agit-il d'une approche romancée, finalement, de l'incarcération des femmes, ou assez réaliste ?
Alors, en tout cas, c'est une série qui est inspirée d'une histoire vraie. C'est l'histoire de Piper Kerman, qui est une femme éduquée, issue de la classe moyenne, et qui a été condamnée à 13 mois de prison pour blanchiment d'argent. Elle a écrit un livre. Ce livre s'appelle Orange is the New Black, qui a été adapté en série télévisée. Orange parce que c'est la couleur de l'uniforme des prisonniers et des prisonnières aux États-Unis. Et le ressort de la série est basé en fait sur le choc culturel entre l'univers carcéral et cette femme bien intégrée à la société américaine. C'est une série qui rencontre un gros succès, qui contribue évidemment à sensibiliser à la vie quotidienne dans les prisons pour femmes. On voit par exemple le personnage principal qui n'a plus accès au repas parce qu'elle a froissé la prisonnière en charge de la distribution prostitution, les rapports avec les gardiens et le chantage sexuel est évoqué à plusieurs reprises. Alors c'est sans doute moins violent évidemment que la réalité, mais c'est une série qui a été unanimement acclamée, qui a reçu beaucoup de récompenses aux États-Unis pour Orange is the New Black.
Merci infiniment pour toutes ces précisions sur les femmes en prison aux États-Unis. Merci, bonne journée à New York, Karim Lebourg.
Merci. 7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Isabelle Rome, vous êtes une magistrate française, vous avez enquêté sur les femmes dans les prisons françaises. Je rappelle que la France d'ailleurs fait partie d'un triste palmarès européen des prisons les plus difficiles, dans les pires conditions. Néanmoins, là, que vous inspire la situation américaine concernant les femmes ?
J'avoue que j'ai le sang glacé. Déjà par le fait que les gardiens peuvent violer comme ça ces femmes incarcérées, donc...
C'est ça, la possibilité pour un homme de travailler dans une prison pour femmes,
ce qui est impossible, je le répète, en France. Voilà,
sauf au niveau de directeur de maison d'arrêt.
De gradé, de surveillant chef, voilà. Et ce que j'ai envie de dire, c'est sauvons la dignité. Et je ne vais pas faire du patriotisme, mais la France est quand même le pays dans lequel sont nés les droits de l'homme. Je crois qu'il faut que nous...
Oui. Enfin, ceci sur la situation carcérale, c'est difficile de faire du patriotisme.
Voilà. Hein. Non, justement. Mais il faut que nous sauvions, je veux dire, ces droits de l'homme dans nos prisons, et notamment ce respect de la dignité. Oui. Et je pense que c'est important de rappeler ça aujourd'hui, et si je dis cela, c'est aussi par rapport à ce qui peut se passer aux États-Unis, c'est qu'il faut faire attention aujourd'hui, parce que le monde est en crise, une crise économique, et il ne faut pas que la conjoncture économique nous fasse nous éloigner justement du respect des droits de l'homme. Il ne faut pas que nous considérions que le combat pour les droits de l'homme, c'est un combat d'arrière-garde ou un combat pour les bobos. Voilà. Donc non, c'est vraiment un combat du quotidien, et je crois que ça me donne envie de rappeler cela.
En France, le chiffre de moins de 4% de femmes dans les prisons françaises est stable. Il n'y a pas de flambée des chiffres pour les femmes comme aux États-Unis.
Non, c'est plutôt stable.
Alors, ceci dit, vous, la maison d'arrêt de Versailles dans laquelle vous avez enquêté, il faut quand même peut-être le rappeler qu'en 2009, il y a eu une relation entre l'ancien, à l'époque le directeur de la prison, et une détenue qui était condamnée aux assises à 9 ans de réclusion, qui était la détenue qui avait attiré le jeune Ilan Halimi dans un guet-apens. C'est l'affaire du gang des barbares avec un crime antisémite particulièrement violent en 2006. Et donc là, il y avait bien eu une idylle ou un chantage. Enfin, voilà, une relation, en tout cas, amoureuse entre un cadre de la prison et une détenue.
Oui, il ne faut pas oublier qu'on est dans des relations humaines. Et que, justement, je pense que c'est une des difficultés pour le personnel d'avoir toujours la juste distance avec les détenus. D'ailleurs, les surveillantes que j'ai interrogées me l'ont souvent dit. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut être dans le respect, dans une certaine proximité, même dans une certaine écoute, et en même temps garder une juste distance. Et d'ailleurs, moi-même, après quelques mois, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais quand on est comme ça 24 heures sur 24 ensemble, ce n'est pas toujours facile de garder la juste distance, et je pense que c'est vraiment tout un apprentissage, une formation pour éviter les dérapages, quels qu'ils soient, c'est-à-dire que ce soit des dérapages qui soient sur trop d'affect, ou aussi des dérapages de violence.
Alors il faut parler quand même de cette spécificité qui concerne les femmes détenues, c'est leur statut de mère. Certes, il y a beaucoup d'hommes détenus qui sont pères, mais il y a un problème de parentalité pour ces femmes. En tout cas, c'est une souffrance qu'elles expriment unanimement.
Oui, c'est vraiment la plus grande souffrance. Elle réside dans le fait de pouvoir rester mère, et elles disent que c'est vraiment très difficile. Alors bien sûr, j'aurais plein d'exemples à vous donner.
Quels sont les problèmes qu'elle rencontre concrètement, et que prévoit la loi surtout? Alors, normalement, la loi ne dit pas qu'une femme incarcérée perd son statut de mère.
Bien sûr que non. Et dans certains cas, comme à Rennes, elles peuvent garder leurs enfants jusqu'à l'âge de 18 mois. Voilà, mais ce n'est pas le cas à la maison d'arrêt de Versailles.
Ce qui veut dire que vous avez rencontré des femmes qui venaient d'accoucher.
Oui,
à qui
notamment, notamment j'ai rencontré une jeune femme qui avait été condamnée 2 ans auparavant à une peine de 18 mois, je crois, d'emprisonnement, qui n'avait pas été incarcérée et qui s'est vue arrêtée 8 jours ou 10 jours après son accouchement. Et donc le bébé, bien sûr, lui a été enlevé, placé en pouponnière, et elle a mis 4 mois avant de le voir. Voilà, sont des situations qui ne sont pas admissibles. Oui, et je pense qu'il faut penser aussi à l'enfant. Alors, il y a la souffrance des mères et la souffrance des enfants et le respect aussi des droits de l'enfant. Hein. La France a signé cette convention internationale des droits de l'enfant. Les enfants ont le droit de garder leur mère aussi. Ils ont droit aussi d'avoir des mères qui sont dignes.
Mais ça veut dire quoi? Pas assez de visites, pas assez de permissions pour les femmes. Alors, les femmes ne reçoivent pas les bulletins scolaires, par exemple, de leurs
c'est
enfants.
C'est un peu tout. C'est-à-dire que à la fois les liens avec les organismes d'accueil, je pense, ne sont pas assez solides et souvent, comme je l'indiquais, elles mettent très longtemps à savoir ce que sont devenus leurs enfants. Les visites sont compliquées à organiser. Est-ce que il y aura bien un éducateur qui pourra accompagner l'enfant voir sa maman? Elles sont tributaires de tout cela. De même, comme vous le disiez, lorsqu'elles essayent d'exercer ce minimum d'autorité parentale qui peut leur rester et qu'elles demandent à se voir communiquer les bulletins scolaires, pas de réponse. Voilà,
ils pourquoi sont des, parce sont que des brimades forme de laisser sont... aller de l'administration pénitentiaire ou volonté de brimade.
Je ne pense pas que ce soit de la volonté de brimade. Je ne pense pas d'ailleurs que cela vienne forcément de l'administration pénitentiaire. Quand je dis que c'est les bulletins scolaires ne sont pas communiqués, ce n'est pas l'administration pénitentiaire. Quand je parle du manque de nouvelles qu'elles ont,
il manque un maillon en fait dans les services sociaux entre l'administration pénitentiaire et puis les endroits où sont placés les enfants.
C'est pour ça qu'il faut encourager des associations qui peuvent intervenir et qui peuvent faire le lien entre les institutions, dirons-nous, à l'extérieur et ces femmes incarcérées. De même, je propose aussi, par exemple, la création d'un carnet de liaison, c'est-à-dire qui permettrait donc aux femmes incarcérées d'avoir des nouvelles régulières de leurs enfants.
La parentalité, c'est essentiel pour la réinsertion.
Oui,
pour ces
parce
femmes.
Qu'il me semble que lorsque on perd son statut de mère, ça veut dire qu'on part ensuite avec un handicap terrible pour la sortie.
Dans quelques instants, nous serons en ligne avec une ancienne directrice de prison à Bamako, au Mali. Sobel, Brother Sparrow, on parle des femmes en prison aujourd'hui sur RFI chez 7 milliards de voisins. Avec le message d'Archiduc sur les réseaux sociaux, Ketan Jamena, qui nous dit « Ma cousine a passé 5 ans en prison pour avoir tué sa co-épouse, sans soutien financier évidemment. Elle a connu la galère et l'enfer en prison », écrit Archiduc, avec les gardes, les gardiens qui l'ont violée. Voilà, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Je voudrais qu'on donne la parole à une ancienne directrice de la prison pour femmes de Bolé à Bamako au Mali. Bonjour à Assetou Yakouaté.
Bonjour madame.
La prison pour femmes de Bolé qui se situe dans la commune 6 à Bamako. Je crois que vous avez été, madame Kouaté, la première femme directrice de prison au Mali d'ailleurs.
Oui, d'accord.
Hein, alors, auparavant, en fait, il n'y avait pas de prison, réellement de prison pour femmes au Mali, avant que vous ne créiez cette prison, cet établissement pénitentiaire réservé aux femmes exclusivement.
En fait, cette prison a été créée dans des contextes assez exceptionnels. Mmh. C'est parce que, après les événements de mars 91, que l'État a entrepris une véritable politique d'humanisation des prisons. Mmh. Et c'est dans ce contexte qu'on s'est rendu compte que les femmes qui vivaient dans les prisons d'hommes vivaient vraiment des calvaires, vivaient dans des situations vraiment précaires.
Vous voulez dire plus que les hommes?
Oui. Et c'est ce qui a même amené le gouvernement à penser à créer cette prison en lui donnant des missions assez spécifiques. Pour justement cette politique d'humanisation des prisons.
Est-ce que du coup les conditions de détention se sont améliorées pour les femmes?
Absolument. Parce que par rapport aux missions spécifiques qui avaient été confiées au centre, il fallait des mesures spécifiques. Et dans une situation, disons, assez spéciale. Mmh. Quand ces femmes vivaient à la prison des hommes, il y avait beaucoup de leurs droits qui étaient vraiment plus ou moins piétinés. Mmh. Donc, à l'ouverture du centre, les missions ont été orientées surtout vers la création d'activités d'humanisation. Mmh. Donc, les conditions de vie des détenus devaient faire figure d'exception. Mmh.
Très rapidement, Madame Kouaté, il nous reste peu de temps, mais quels étaient les droits essentiels de ces femmes qui étaient bafouées et qu'est-ce que vous avez apporté dans cette prison à Bolé très rapidement, s'il vous plaît?
Ce qu'on a amené, c'est que d'abord, dans leur situation personnelle, on les a mis dans un espace assez spacieux, accompagné d'un confort relativement acceptable. Destinée aux femmes, à ces femmes et à ces mamans. Mmh. Plusieurs activités d'apprentissage ont été mises en place pour occuper ces femmes en lieu et place du confinement, comme d'habitude ce qui se passe dans toutes les prisons du monde. Les femmes étaient prises en charge de leur entrée à Bolé jusqu'à leur sortie par une équipe pluridisciplinaire composée de travailleurs sociaux, de psychologues, d'agents médicaux ou d'autres formateurs.
Avec une vraie politique de réinsertion, vous partez du principe que la réinsertion dans la société lorsqu'elles sortent, pour les femmes, c'est primordial parce qu'elles ont des bouches à nourrir?
Absolument. C'est ce qui est d'ailleurs difficile parce que l'État, en mettant tout ça en place, n'est pas pour le moment arrivé à mettre en place une véritable politique de réinsertion, à savoir la prise en charge de ces femmes à leur sortie de prison. Ainsi, c'est là où doivent intervenir les associations de femmes, les ONG et d'autres partenaires du Mali qui doivent accompagner non seulement ces femmes au niveau de la prison, mais en dehors également de la prison.
Et c'est ce que vous faites d'ailleurs, entre autres, avec parce que maintenant vous êtes à la retraite, mais vous avez lancé une association de défense des femmes détenues qui s'appelle l'AFSOM et qui regroupe des professionnels pour la réinsertion et la réhabilitation des femmes détenues. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Assetou Yakouaté, donc première femme directrice de prison au Mali, et vous avez donc créé cette prison spécifique de Bolé pour les femmes qui a d'ailleurs été pendant des années et qui continue de l'être visitée par des professionnels, des magistrats de la sous-région, d'autres pays du continent africain pour voir comment ça fonctionne et ce qui est mis en place. 33 1 84 22 71 71. On laisse la parole à une auditrice qui nous appelle de Saint-Louis au Sénégal. Bonjour Fatou.
Bonjour Emmanuel.
Fatou, vous êtes étudiante en sociologie. Vous nous avez appelé parce que justement vous faites une thèse sur les femmes en prison et la réinsertion après la peine purgée. C'est bien cela Fatou? Ah, on a un petit problème de ligne téléphonique. Écoutez, on essaye de vous rappeler. Ça aurait été intéressant d'avoir votre point de vue et votre réaction par rapport au témoignage du Mali pour mieux comprendre la situation au Sénégal. Je rappelle qu'évidemment, la situation en Afrique, hein, Isabelle Rome, ça vous le savez, est catastrophique globalement dans les prisons africaines. Très souvent, il faut apporter ne serait-ce que la nourriture, hein, que les familles se mobilisent pour apporter la nourriture aux détenus. Et là, on le voit bien, les femmes sont d'autant plus vulnérables qu'il y a les violences sexuelles dont elles sont victimes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas victimes de violences sexuelles. Attention, on n'a pas dit ça non plus. Peut-être vous vouliez commenter ce que nous disait notre ancienne directrice de prison au Mali, Isabelle Rome.
Oui, alors bien sûr, comme vous le dites, la situation dans les prisons d'Afrique est plus difficile certainement que dans les prisons françaises, mais il demeure la même préoccupation, c'est la réinsertion. Et Madame Kouaté disait que malgré tous les efforts, eh bien c'est difficile, mais je pense que en France aussi. Et je crois qu'il est vraiment important que la prison et plus de liens avec l'extérieur, et peut-être aussi que la société change un peu son regard sur la prison.
Ouais, parce que là vous décrivez, là, dans les femmes que vous avez rencontrées à la maison d'arrêt de Versailles, il y a beaucoup de femmes qui travaillent en prison. Elles travaillent plus que les hommes d'ailleurs.
Ça c'est une spécificité aussi de la maison d'arrêt des femmes de Versailles, hein, qui, je le répète, est une petite structure, puisque à peu près la moitié des femmes travaillent. Ce qui est beaucoup plus que la moyenne, puisque je crois que dans l'ensemble des prisons françaises, c'est moins de 30% des détenus qui travaillent.
Et alors, pour une somme dérisoire, il faut le rappeler,
c'est le maximum, c'est 220 euros par mois, dans ce qui est assez dérisoire. Cela dit, ça permet de rythmer tout de même les journées et d'avoir ce petit pécule qui permet de téléphoner et aussi d'indemniser les victimes d'ailleurs.
On va reparler de la réinsertion. On a enfin Fatou, je crois, avec une ligne téléphonique propre. Fatou, rebonjour. Vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins. Nous vous écoutons.
Bonjour Emmanuel. Donc, je disais tantôt que le nombre de femmes qui profitent en prison est certes minoritaire, mais la prise en charge pose problème. Les femmes connaissent des effets de détention assez accentués, assez difficiles.
Oui.
Et donc, dans nos recherches, on a pu constater que de l'arrestation à la vie en prison jusqu'à la réintégration sociale, les femmes traversent des moments particulièrement difficiles qui avaient des impacts sur leur vie. Souvent, elles sont abandonnées, elles sont réfugiées, elles sont indexées, marginalisées. Offensées et très peu de femmes réussissent finalement à trouver une vie normale après
leur sortie. C'est-à-dire qu'elles demeurent en marge de la société dans des conditions financières dramatiques.
Effectivement. Parce qu'en fait, leurs besoins et leurs ressentis abondent pour une prise en charge spécifique. La prise en charge des femmes diffère de des hommes.
Il n'y a pas de prise en charge spécifique adaptée au cas des femmes, alors que bien souvent elles ont des enfants à nourrir et que ça serait tout à fait important. Merci beaucoup Fatou de nous avoir appelé. Isabelle Rome, on arrive au terme de cette émission. Justement, est-ce qu'on a des statistiques sur la réinsertion des femmes une fois qu'elles ont purgé leur peine en France?
On n'a pas de statistiques spécifiques pour les femmes.
Il en faudrait, selon vous?
Je ne pense pas qu'il faille des mesures spécifiques pour les femmes, mais le témoignage encore de cette jeune étudiante me rappelle que dans notre République, il y a ce principe de l'égalité en droit, donc c'est pour cela que nous ne pouvons pas forcément envisager de mesures spécifiques pour les femmes, mais il y a quand même un constat que l'on doit faire, c'est que souvent ces femmes que j'ai rencontrées, c'est les femmes qui sont détenues, élèvent leurs enfants seules. Et c'est cela la spécificité.
Les mères célibataires.
Les mères célibataires. L'une d'entre elles me disait que le père de son enfant s'était volatilisé depuis qu'elle avait été écrouée. Et leur crainte, c'est de perdre leurs enfants à jamais. C'est pourquoi elles vont se battre pour essayer de travailler un petit peu, essayer d'avoir un peu d'argent, parce qu'elles savent aussi que si elles perdent leur logement, elles perdent peut-être leurs enfants, ou en tout cas, ça veut dire qu'elles mettront des mois, voire des années pour les récupérer.
Est-ce que ça, les magistrats en tiennent compte, justement? Vous avez été juge d'application des peines. Est-ce qu'il y a des aménagements de peines plus fréquents pour les femmes?
Le critère des mesures d'aménagement de peine, c'est par exemple le maintien des liens familiaux. Donc, on est forcément dans une situation où on doit maintenir les liens familiaux, et donc où l'aménagement de peine, eh bien, peut être prononcé. Donc, une fois de plus, je vous dirais, pas de situation particulière pour les femmes en droit, mais en fait, il y a des situations qui méritent d'être regardées de près et d'être améliorées.
Mais vous, en tant que magistrate, que vous enseignez finalement cette enquête dans une maison d'arrêt, à dialoguer avec des femmes? Qu'est-ce que vous aimeriez qui change dans le fonctionnement de la justice française?
Alors, c'est rapidement. Je pense que les juges doivent, la pratique de juge, je pense qu'il faut vraiment que nous prenions le temps d'expliquer nos décisions, que nous prenions le temps d'écouter. J'aime bien employer la formule de dire qu'il faut que nous regardions les gens en face, et puis il faut que la société ouvre les yeux aussi sur ces prisons qui ne doivent pas être des verrues, mais seulement un outil de régulation de la vie sociale.
Ouais, aider à la réinsertion. Merci beaucoup Isabelle Rome. Dans une prison de femmes, une juge en immersion. C'est paru aux éditions du Moment avec une belle et sobre préface de Robert Badinter, ancien ministre de la Justice sous François Mitterrand et à l'origine, je le rappelle, de l'abolition de la peine de mort en 1981. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur le malaise des adolescents en France. Ils regardent la crise économique à la télévision, leurs parents sont au chômage et ils n'ont jamais été aussi inquiets. Ne manquez pas l'émission, c'est à 10h10, temps universel. Merci de votre fidélité.